Face au déferlement des nouvelles technologies de l'information, de la gestion bibliothéconomique en particulier, plusieurs attitudes, plusieurs discours étaient imaginables. De l'hostilité déclarée, du repli frileux dans le statu quo jusqu'à l'ouverture dynamique, en passant par tous les pastels du scepticisme, de la résignation, de la crainte, de l'indifférence, réelle ou feinte, de l'optimisme mitigé. J'observe que les bibliothèques de notre pays ont résolument opté pour l'ouverture et l'esprit d'entreprise. Preuve en sont ces réalisations concrètes, effervescentes même, qui ont pour sigle Sibyl Rebus, Dobis Libis, Ethix. Réseau en voie d'extension, d'intégration et d'interconnexion nationale et internationale. On ne peut que s'en réjouir et s'en féliciter. Le discours réfractaire n'eût conduit à rien, sinon peut-être à quelque réalisme de mauvais aloi. Le philosophe et le mathématicien Ferdinand Gonzette, de la naissance duquel on célèbre ces jours précisément le 100e anniversaire, nous encourage sur la voie d'un réalisme créatif dans les termes suivants. Je cite, « L'homme ne reste l'homme qu'en payant son tribut à l'éternel changement. Il ne peut être qu'en devenant. » Puis l'éminent penseur Neuchâtelois de nous demander « Que faisons-nous pour maintenir ce changement dans l'horizon des valeurs humaines ?» Que faisons-nous pour maintenir ce changement dans l'horizon des valeurs humaines, pour qu'il ne nous échappe pas, pour que sa domination ne s'établisse pas sur nous? Ces questions nous interpellent plutôt crûment, sachons le reconnaître, car les mutations que nous vivons sur le plan du livre et du document, comme en bien d'autres domaines d'ailleurs, s'exprime surtout en termes de moyens, en termes de technique, en termes d'efficience et de performance dans la gestion. Et pourtant, nombreux sont celles et ceux qui, avec Jacques Lesourne, songez à son beau livre « Éducation et société, les défis de l'an 2000 », se demandent si l'on réfléchit assez sur les fins, sur les enjeux culturels et sociaux, sur les implications psychologiques de l'introduction de nouvelles technologies, tout en optant pour l'engagement dans la modernité technique, ne devrions-nous pas faire aussi preuve parfois d'un peu plus de sens critique à son égard? Ne serait-ce que pour éviter, par exemple, que certaines réformes sur le terrain soient dictées plus par le souci d'honorer une découverte technique que par celui de répondre à un réel besoin des utilisateurs. Autre question, la saine application des moyens informatiques n'admet-elle pas les modulations des dosages au gré des différents types d'établissements et de services? Elle tiendra compte, et je retrouve ici Marc Chauvin, d'écoute, de la complexité, de la qualité du résultat, de la fiabilité, de la compatibilité et aussi, disons-le, de l'inutilité éventuelle. Dans le prolongement de notre préoccupation idéale, espérons que la définition d'une politique de centre de gravité, il en est passablement question actuellement, et sa mise en œuvre dans notre pays soit précédée d'une réflexion et d'un débat approfondi sur les implications culturelles d'une orientation certes judicieuse dans son principe. Mais attention au choix des critères et des modalités si l'on veut éviter de décourager certaines grandes traditions régionales, de démotiver des centres nerveux dignes de considération. Nous aurons réussi à éviter dans ce pays au fil de ces 10 dernières années, le Sonderbund informatique, puissions-nous éviter aussi la guerre du livre et du document. Autre aspect sensible, le sort fait à l'usager. L'usager benutzer, un terme que je n'aime guère, je ne lui ai pas trouvé de remplaçant malheureusement. Le sort fait à l'usager qui m'amène à exprimer ici ce soir une nouvelle fois des sentiments de gratitude. Fidèles à leur esprit de service, les bibliothécaires de ce pays jouent présentement un rôle considérable dans la formation de l'étudiant, du chercheur et de l'enseignant aux nouvelles méthodes et techniques de consultation. Ce qui signifie que ces dévoués médiateurs entre la bibliothèque et le lecteur se sont généralement imposés déjà l'effort nécessaire à leur propre formation. S'agissant du commun des utilisateurs universitaires, un constat plutôt réjouissant vous est permis. La plupart des membres de nos hautes écoles sont branchés, voire même bien branchés. Mais beaucoup reste à faire par ailleurs, car, admettons-le, toutes et tous ne peuvent aller à la même allure. Toutes et tous ne sont pas décidés à se prendre en main avec la même vigueur. On pourra noter ci et là des réactions de rejet et des réticences, d'où l'importance, mesdames et messieurs, de ce rôle de lien, de liaison assumé par nos bibliothécaires. C'est en définitive une attitude de patience et de compréhension qui sera la plus appropriée en cette fin du siècle, une période de transition. En réalité, notre drame commun n'est-il pas d'avoir à vivre dans un environnement essentiellement scientifique et technique, sans avoir pu encore, faute de recul et faute des connaissances nécessaires, pu l'assumer culturellement. Je prendrai encore la liberté de souhaiter ardemment que les bibliothécaires de l'an 2000, démurgent sur leur clavier peut-être, aient su garder racine dans une belle culture générale, aient su sauvegarder, malgré les exigences et les impatiences de l'outil, une curiosité complice avec les auteurs et le contenu de leurs écrits. Je ne saurais clore sans souligner avec force que les universitaires, loin de jouer les Cassandres, j'ai pu parfois en donner l'impression peut-être, fondent au total de grands espoirs dans les évolutions en cours. Ils en retirent aujourd'hui déjà maints avantages bien réels, beaucoup de temps gagné dans la recherche, sécurité accrue dans les données, l'impression ou l'illusion de mieux maîtriser la montagne des publications, et peut-être, sait-on jamais, la sagesse naît dans la souffrance, la conviction qu'il ne faut publier qu'à bon escient, si l'on veut guérir un jour notre société de sa diarrhée documentaire. Mais trêve de plaisantes utopies, les universités, en particulier celles de petite et moyenne dimension, perçoivent dans l'intégration progressivement généralisée à tout niveau des sources documentaires un renforcement considérable de leur potentiel de recherche. Nos recherches communes, les internationales scientifiques, elles vont se multiplier, certes, ne peuvent qu'y gagner, étant bien entendu que la convivialité électronique ne saurait supplanter la convivialité humaine. C'est dire que pour l'université, comme pour la bibliothèque, la coopération est un maître mot. Aussi bien, soyez remerciés, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, de l'avoir résolument mis au cœur de votre Assemblée générale, en en donnant même une noble définition, cette coopération est d'abord et avant tout un état d'esprit. Quel métier tout de même, Mesdames et Messieurs, que celui que nous exerçons ensemble, sans pouvoir nous passer les uns des autres, avec ce même état d'esprit, le même idéal, celui de préserver et d'enrichir le savoir et de le rendre accessible au plus grand nombre. Je vous remercie.